Les élections législatives ce dimanche au Liban, un vote sur un tour pour élire les 128 membres de la Chambre des députés. Le 74e anniversaire de la Nakba, la catastrophe en arabe, le déplacement forcé de plus de 750 000 Palestiniens en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. La marine tunisienne a secouru hier 81 candidats à l'exil, des personnes parties des côtes libyennes. Gros plan sur la lutte contre Daesh, le Maroc a accueilli mercredi dernier une réunion de la coalition anti-État islamique. Notre invité sera David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Emmanuel Macron, ce dimanche à Abu Dhabi, pour rendre hommage à Cheikh Khalifa, président des Émirats Arabes Unis, décédé vendredi à l'âge de 73 ans. La 5e édition demain de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Les scouts musulmans de France participent à cet événement. Nous écouterons son président Abdel Aksadi. Jour de vote au Liban, les élections législatives, un vote sur un tour pour renouveler les 128 membres de la Chambre des députés élus pour un mandat de 4 ans. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les quelques 3,9 millions d'électeurs appelés aux urnes. Plus de 225 000 Libanais expatriés étaient appelés aux urnes les 6 et 8 mai derniers. Il s'agit des premières législatives depuis le mouvement de contestation en 2019 et les explosions au port de Beyrouth en août 2020. Les résultats de ces élections sont attendus demain. Les Palestiniens commémorent ce dimanche le 74e anniversaire de la Nakba, la catastrophe en arabe, le déplacement forcé de plus de 750 000 Palestiniens en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Un anniversaire dans un contexte particulier après la mort mercredi dernier de Shirin Abu Akleh, la journaliste d'Al Jazeera tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle était en reportage à Jénine en Cisjordanie occupée. Et ses obsèques vendredi dernier ont été marquées par la violence de la police israélienne. Un Palestinien est mort ce dimanche des suites de blessures subies lors d'une opération des forces israéliennes vendredi dans le nord de la Cisjordanie occupée. Cet homme de 43 ans avait reçu une balle dans l'abdomen lors d'un raid israélien dans le camp de réfugiés de Jénine. Au moins 12 autres Palestiniens ont été blessés lors des opérations menées vendredi dernier dans et autour de Jénine. 15 pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, demandent à Israël de revenir sur un projet de construction de plus de 4000 logements en Cisjordanie. Ils se disent profondément préoccupés par la décision du Conseil israélien de planification. Ces pays, via leur ministre des Affaires étrangères, demandent aux Israéliens de ne pas procéder aux démolitions ou aux expulsions prévues, notamment à Massafer Yatta. Gros plan sur la lutte contre Daesh. Le Maroc a accueilli mercredi une réunion de la coalition anti-État islamique, une réunion pour coordonner et poursuivre l'engagement international contre la menace croissante de l'organisation terroriste. Nous y revenons avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
C'est la 9e réunion de ce type concernant la coalition anti-Daesh, qui regroupe plus de 80 pays et entités engagés justement contre l'organisation de l'État islamique. Le fait qu'elle ait eu lieu au Maroc est en soi intéressant parce que ça veut dire que c'est la première fois que c'est africo-centré d'une certaine manière. D'ailleurs, on peut noter qu'en décembre 21, le Maroc s'est trouvé co-présidé le groupe de travail sur l'Afrique justement contre Daesh, l'Africa Focus Group. Alors pourquoi l'Afrique ? Probablement aussi parce que aujourd'hui, plus de 40% des attaques de l'État islamique, en tout cas de ce qui reste de l'État islamique, concernent le continent africain, avec un coût estimé à plus de 170 milliards de dollars sur les 10 dernières années. C'est dire qu'il y a un enjeu tout particulier justement pour le continent africain. Et de ce point de vue-là, la présence évidemment américaine sur place est la marque aussi de l'importance que les États-Unis continuent à accorder à ce combat, même si Anthony Blinken a dû se faire représenter par Victor Nuland puisqu'il avait été testé positif au Covid. Mais en tout cas, incontestablement, c'est la réussite et aussi, d'une certaine manière, la reconnaissance du rôle joué par le Maroc comme chef de file justement de cette dynamique anti-Daesh sur le continent africain.
Vous évoquez ce qui reste de l'État islamique. Comment évolue la présence de ce groupe terroriste aujourd'hui ?
Il faut rappeler que le groupe, effectivement, a connu un certain nombre de soubresauts, notamment parce que ses chefs ont été éliminés successivement. D'abord Abu Bakr al-Baghdadi et puis son successeur, Abu Ibrahim el-Kourachi, en février 2022. Il a été tué dans le nord de la Syrie, à proximité de la frontière turque. Il a été remplacé par un certain Abu Hassan al-Hashimi el-Kourachi depuis mars 2022. Et il y a l'idée de relancer en fait une dynamique qui avait été cassée d'une certaine manière avec l'effondrement de l'entité, le califat autoproclamé et territorialisé sur la Syrie et l'Irak. Donc il y a un certain nombre de succursales qui se sont développées au niveau planétaire, puisqu'il y a une logique de provincialisation, hein, wilayat, qui était prôné par l'ancien calife autoproclamé Abou Bakr el-Baghdadi, alors avec des réussites inégales selon les endroits, notamment il y a des grèves qui n'ont pas prise, par exemple au Yémen, parce qu'il y a la concurrence de ACPA, Al-Qaïda au Yémen, qui demeure très forte, mais dans d'autres régions, et notamment en Afrique, il y a effectivement le développement de succursales qui ont fait allégeance au nouveau calife autoproclamé, et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique orientale, où l'activité est de plus en plus marquée. On l'a vu ces derniers mois, justement, avec des combats très importants au Mozambique, avec des menaces sur des projets gaziers, notamment dans la province Cabo Delgado.
Comment ces membres sont-ils recrutés ?
D'une certaine manière, il y a des phénomènes d'agrégation, hein, avec des fusions qui sont opérées, puisque, par exemple, l'État islamique du Grand Sahara a été intégré à l'État islamique de la province de l'Afrique occidentale, en mars 2019, même s'il peut se prévaloir de la possibilité d'une vilaya à part entière, c'est-à-dire d'une province en tant que telle, mais c'est surtout le fait qu'il y a une succession de mouvements finalement à caractère islamo-djihadiste qui font allégeance, soit évidemment Al-Qaïda, qui est l'organisation historiquement première, soit aujourd'hui assez régulièrement à l'État islamique dans sa matrice historique, et donc le principe de la baïa, l'allégeance, est là pour marquer, on va dire, le diffusionnisme de cette organisation qui a connu des fêtes militaires, évidemment, dans la zone de la Syrie et de l'Irak.
Vous évoquez la matrice historique du groupe État islamique. Comment est né ce groupe ? Pouvez-vous nous le rappeler ?
Il est né d'une certaine manière comme un produit, un sous-produit de la mouvance islamo-djihadiste qui a bouleversé la Syrie et l'Irak, puisque sur les ruines notamment de ce qu'avait été Al-Qaïda en Mésopotamie, et il s'est imposé progressivement, d'abord effectivement en Irak, avec la proclamation en 2014 pour la première fois d'une ambition territoriale, avec un califat autoproclamé par Abou Bakr el-Baghdadi, et avec une extension qui a bénéficié du chaos qui prévalait dans la région, et notamment une extension sur la zone syrienne à la faveur de la guerre civile en Syrie, ce qui lui a permis de se constituer une emprise territoriale marquée et qui a donné lieu justement à une réponse internationale, en l'occurrence la coalition justement anti-Daesh menée par les Américains à partir de 2014, celle-là même qui a fait l'objet justement de la réunion au Maroc pour marquer le fait que c'est un combat sur la longue durée et que ce combat ne s'est pas achevé avec la destruction, on va dire, du califat territorialisé tel qu'il s'était imposé à partir de 2014 et dissous à partir de 2017.
Quelle est l'ambition de ce groupe, son objectif fondamental ?
Son objectif, on le retrouve d'ailleurs dans l'activisme qu'il mène dans la zone AFPAC, notamment en Afghanistan, à l'encontre des talibans, qui est pourtant un mouvement islamiste, mais nationalisé. C'est l'idée d'un djihad globalisé, avec des succursales, une provincialisation au niveau planétaire, et de manière opportuniste d'ailleurs, en utilisant des situations locales qui sont très variées, mais on le voit notamment en Asie du Sud, avec les attaques au Sri Lanka ou au Bangladesh, puisqu'il y a la tentative d'implantation justement en Asie du Sud, comme en Afrique orientale. Donc il y a effectivement un projet globalisé, transnational, djihadiste transnational, qui rejoint pour partie les ambitions de ce qu'avait été Al-Qaïda, même si les deux organisations sont assez largement en concurrence sur différents théâtres d'opération.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. La marine tunisienne a secouru hier 81 candidats à l'exil, des personnes parties des côtes libyennes. Elle se trouvait sur une embarcation de fortune en mauvais état. Parmi ces 80 exilés qui tentaient de franchir clandestinement la Méditerranée, 38 sont originaires d'Égypte, 32 du Bangladesh, 10 du Soudan et 1 du Maroc. Le bateau a été intercepté alors qu'il se trouvait à 6 km environ des côtes du nord-est de la Tunisie. Emmanuel Macron, ce dimanche à Abu Dhabi, pour rendre hommage à Cheikh Khalifa, président des Émirats Arabes Unis, décédé vendredi dernier à l'âge de 73 ans. Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le demi-frère du président défunt, a été élu hier à la présidence de l'Émirat. Émirats, un État avec lequel la France entretient des liens économiques et militaires étroits. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de demain en France, mais il reste recommandé. Les contaminations et les hospitalisations liées au Covid sont actuellement en baisse, même si les scientifiques préviennent que l'épidémie n'est probablement pas terminée, notamment face à la menace d'un nouveau variant. La journée internationale du vivre ensemble en paix, elle aura lieu demain. Ce sera la 5e édition. Objectif, mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Les scouts musulmans de France participent à cette journée. Ils organisent en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris la projection du film « Nous tous » ce lundi à 18h à la Grande Mosquée de Paris. Entretien avec le président des scouts musulmans de France, Abdelhak Sali.
C'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Elle a été adoptée le 8 décembre par les Nations Unies, le 8 décembre 2017. Donc c'est la 5e édition cette année. Elle a été initiée par, donc c'est une fierté aussi pour nous, parce qu'elle a été initiée par le Cheikh Bentounes, qui est le fondateur des scouts musulmans de France. Et donc cette journée, elle symbolise quelque part l'âme même du mouvement scout, qui est de vivre ensemble dans la paix. Parce qu'on vit ensemble, mais comment allons-nous vivre ensemble? Nous, on souhaite la vivre dans la paix. Et tous les projets qui sont liés au scoutisme, en tout cas, et j'espère qu'ils devraient l'être dans le monde entier, eh ben, c'est sur cette notion du vivre ensemble. Comment on vit avec les autres? Comment on vit l'altérité? Il faut qu'elle soit dans la paix, mais la paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix avec son environnement, la paix avec les animaux, avec tout un chacun, la paix dans sa famille, etc. Pouvoir grandir dans cette paix et pouvoir construire l'avenir, en fait, dans la paix. Construire, mais ça peut être, quand on parle de paix, on parle aussi d'architecture, on parle de, d'écologie, on parle de... C'est une paix qui est beaucoup plus générale, en fait, que juste une paix qui serait symbolique de non-conflit, en fait.
Et c'est pourquoi vous avez choisi, en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris, d'organiser la projection du film « Nous tous ». Ce sera suivi d'un échange autour du vivre ensemble. Le film « Nous tous » qui retrace le parcours de différents citoyens et citoyennes issus de plusieurs continents.
Ce film « Nous tous » en fait va nous servir de support à un échange autour de ce vivre ensemble en paix. On a tout simplement demandé à Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'il était partant pour diffuser ce film, et il a accepté tout de suite, parce que c'est aussi il est parti dans une volonté aussi de ce message du vivre ensemble en paix. Et donc c'est tout naturellement qu'on a décidé ensemble de diffuser ce film. Alors ce film, il faut savoir qu'il n'y a pas que les scouts musulmans de France qui vont le diffuser. Ce film, on a fait la connaissance du réalisateur, qui est Pierre Pirard, qui est belge, et qui a décidé, lui, d'aller faire le tour du monde et découvrir en fait des histoires inspirantes, et c'est ce que raconte ce film. Et donc, nous, à travers ce film, on a déjà 4 projections à travers la France, en tout cas au sein des scouts musulmans de France, mais dans le monde entier, c'est plus de 52 pays, autour de 420 partenaires, pas uniquement des scouts musulmans de France, mais c'est des partenaires de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, dont vous trouverez toutes les informations sur le site du 16 mai, donc 16mai16amai.org, donc le 16mai.org, qui ont décidé de diffuser ce film. Et nous, on diffusera ce film à la Grande Mosquée de Paris le 16 mai à partir de 18h. Bien sûr, il faut s'inscrire, vous trouverez toutes les informations sur notre site scoutmusulman.fr. Pour s'inscrire, on a 4 projections, donc la Grande Mosquée de Paris, mais aussi à Orléans, à Toulouse, à Châlons-en-Champagne. On souhaitait le faire aussi dans d'autres villes, bon, on n'a pas forcément eu la possibilité, mais en tout cas, on va le diffuser aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on voulait absolument diffuser ce film parce qu'il raconte des histoires inspirantes, en fait. Des personnes qui ont combattu l'un contre l'autre et qui ont décidé par la suite de s'unir pour reconstruire finalement l'avenir. Parce que pour nous, en tout cas, comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, en fait, ou de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. Donc, comment allons-nous rendre la terre à nos enfants? Comment allons-nous laisser cette terre à nos enfants? Donc, on souhaite, nous, en tout cas, au sein des scouts musulmans en France, la laisser de façon paisible, encore une fois, mais autour de l'environnement, autour de tout, des relations humaines, autour de tout ça.
Et vous l'écrivez, hein, face aux crises que traversent la société française et le monde plus globalement, nous sommes convaincus que c'est par le dialogue, la médiation et le vivre ensemble, en paix, que l'humanité pourra relever le défi de la réconciliation de la famille humaine.
Oui, tout à fait. C'est par ce dialogue, cette rencontre, cet échange. Le Coran ne dit-il pas, je vous écris en communauté, afin que vous vous entreconnaissiez. En fait, c'est cette connaissance des uns et des autres qui fait qu'on va aller vers cette paix durable. Nous, on est persuadés, par exemple, moi je le vois quand on fait des activités ensemble avec les enfants de plusieurs mouvements de scoutisme en tout cas, et d'autres enfants, les enfants se posent des questions, échangent les uns avec les autres, et ça permet quelque part de briser, ou en tout cas d'effacer, certains fantasmes autour de la religion, autour de l'origine, autour de tout ça, et les gens se rendent compte que finalement, ce ne sont que des humains tout simplement. Des enfants, a priori, enfin en tout cas, des enfants d'abord, ensuite une humanité. Et c'est comme ça qu'on va, on l'espère en tout cas, réconcilier cette famille humaine. J'aimerais aussi faire un message, parce que autour de cette journée internationale, beaucoup d'initiatives sont prises.
Et vous faites la promotion, bien entendu, du dialogue interreligieux au sein des scouts musulmans de France.
C'est intrinsèque au mouvement de scoutisme, en fait, l'interreligieux, parce que le mouvement scout, lorsqu'il s'est créé, Baden-Powell a créé le mouvement scout en 1907, il a parlé de trois principes, en fait. Quand vous faites le signe scout, vous avez le pouce qui est sur l'auriculaire, et vous avez l'index, le majeur et l'annulaire qui sont levés. Et vous avez ce signe-là, les trois doigts levés, signifient le devoir envers soi, le devoir envers les autres et le devoir envers Dieu. Alors certains parlent de quelque chose qui nous dépasse lorsqu'on ne veut pas signifier Dieu. Bon, c'est des mots, tout ça, bien sûr, mais il y a ce devoir de spiritualité. Et donc, le scout, pour lui, le dialogue interreligieux est partie entière du travail, en tout cas interspirituel ou interconvictionnel, si vous voulez. Et ce dialogue passe par la rencontre, aller rencontrer les autres dans leur lieu de culte éventuellement. On a déjà participé à des échanges, des jeunes qui ont été visiter des églises, mais aussi des mosquées, des temples, des synagogues, et ont pu découvrir finalement que dans la maison de Dieu de l'autre, en fait, c'est la raison de Dieu de tout un chacun, tout simplement.
Le président des scouts musulmans de France, Abdelhak Salih. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, et Mahi Binbin pour Mon frère fantôme, publié aux éditions Stock, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.